Mes très chers frères, mes très chères sœurs, ou le contraire, mes très chères sœurs, mes très chers frères, vive la moula!
Radio Impro,
le live,
animé par Maddy.
Bonjour, bonsoir, c'est Idam, et aujourd'hui, nous reprenons nos lives. Je vous souhaite d'abord une très bonne entrée, que vous soyez au collège, à la primaire, au lycée, à la fac, tout ce que vous voulez, même que vous repreniez le travail, etc. Bonne rentrée. À présent, le thème de cette première émission est le féminisme. Le petit tour de table, les bonjours, etc. Evan à la console.
Pour une fois qu'on m'appelle en premier, c'est super.
Parce que t'es devant moi, en fait. D'ailleurs, c'est un... Je suis en dépression à cause de ça, j'en ai marre.
Okay,
Nathan.
Bonjour.
Ursula.
Bonjour.
Anouk. Thierry. Ton micro n'est pas activé.
En voilà. Direct de Radio House.
Thomas.
Bonjour.
Et notre invitée, Pauline Dumas.
Bonjour.
Radio Impro.
Le live.
Animé par Maddy.
On va passer à l'interview de notre invité. Donc, je laisse Anouk démarrer la première question.
Depuis quand est-ce que le féminisme remonte et où est-ce que quand est-ce que ça a été utilisé en premier?
Alors, c'est un peu difficile de dire quand exactement ça a commencé parce que on vit dans un système patriarcal depuis des millénaires. Donc, c'est-à-dire un système où les hommes ont du pouvoir et les femmes n'en ont pas. Et donc, un système qui opprime les femmes. Et donc, on peut imaginer qu'en fait, il y a eu plein de personnes qui se sont opposées à ça depuis très longtemps. C'est juste qu'on n'en a pas forcément des traces. Et les premières traces, par exemple, dans les écrits ou les mouvements sociaux, ça va être, par exemple, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges au moment de la Révolution française, pour protester contre le fait qu'il y avait eu ce document, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais sauf que ça n'incluait pas les femmes. Voilà, on peut considérer que ça, c'est un texte fondateur du féminisme.
D'accord. Merci.
Et c'est vraiment le texte qu'on considère le premier des premiers, alors?
Non, je ne saurais pas dire quel texte arrive en premier. Mais en tout cas, c'est un des textes qui est arrivé, qui a réussi à devenir public et connu, et ce qui n'était pas facile en fait pour les femmes jusqu'à maintenant.
Est-ce que vous avez déjà fait des manifestations pour le féminisme, donc, ou d'autres choses comme ça?
J'en ai fait beaucoup de manifestations, beaucoup de participation à des associations. Par exemple, j'ai participé à organiser la manifestation pour le droit à l'avortement début juillet à Tulle pour protester, pour soutenir les Américaines vu que la Cour suprême a renversé l'arrêt Roe versus Wade qui garantissait le droit à l'avortement sur tout le territoire des États-Unis. Et donc maintenant, il y a plein d'États qui ont rendu l'avortement illégal aux États-Unis. Et donc, c'était important de soutenir les Américaines et de dire on ne veut pas que ça arrive ici. Donc il faut qu'on montre qu'on tient à ses droits et qu'on mette les manifestations, c'est un moyen de mettre la pression sur les personnes qui nous gouvernent, de dire qu'on ne se laissera pas faire.
Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question?
Moi j'avais une question sur le mot féminisme. C'est le seul mot? Il n'y a pas un autre mot? On n'utilise pas autre chose? Féminisme, vous voyez, le féminin, féminisme...
Disons qu'on a choisi le terme féminisme parce que c'était un moyen en fait pour... en fait, à la base, ce terme de féminisme, c'est une insulte contre les femmes qui veulent avoir des droits et qui s'opposent à la violence des hommes. Et donc on a dit, oh là là, encore, c'est féministe. Et en fait, la stratégie souvent des personnes qui militent, c'est de se réapproprier ces termes qui sont des insultes pour dire, en fait, j'en fais ma force. C'est comme le terme queer, par exemple, chez les personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et trans, queer, à la base, ça veut dire bizarre en anglais. On disait, ah, c'est une personne queer, c'est une personne bizarre. Et en fait, ils se sont réappropriés ce terme en disant, bah, nous, du coup, on se reconnaît sous cette bannière-là. Voilà.
Et j'avais une autre question, ce qui est le principe de l'interview. pourquoi vous avez décidé d'autant participer à ça, même si je comprends pas les femmes qui ne participent pas ou qui sont contre, mais bon, bref.
Alors j'ai réfléchi à cette question. En fait, j'ai toujours été très sensible aux injustices de manière générale, pas seulement des injustices envers les femmes, mais aussi envers les personnes racisées, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas blanches. Ou bien, ce genre de... Ça a toujours été une préoccupation pour moi de se dire pourquoi on n'a pas tous la même égalité des chances. Et en fait, au lycée, j'ai dû avoir une enseignante qui a évoqué le féminisme. Et ensuite, je me suis mis à regarder autour de moi, dans ma vie, et je me suis rendu compte que, par exemple, à table, dans les repas de famille de Noël, quand on parlait des choses personnelles, des relations dans la famille, les femmes parlaient. Et ensuite, quand on parlait de politique et d'économie, donc d'affaires publiques, les femmes se taisaient, c'était que les hommes qui parlaient. Et ça m'a choquée. Comme si elles ne se sentaient pas légitimes pour parler de sujets qui concernent la société. Et autre chose aussi, c'est que très jeune, on m'a appris à faire le ménage parce que je suis une fille et que je suis socialisée comme une fille. Donc par exemple, à 11 ans, on m'a appris à faire du repassage. Et ma mère me sollicitait souvent pour passer l'aspirateur, par exemple, dans la maison. Et elle ne sollicitait pas du tout autant mon frère pour faire le ménage. Voilà. Et j'ai trouvé ça très injuste. Donc je me suis empressée de le dire. Et après, ça continue aujourd'hui. Je continue à m'engager.
Merci. Oui, Eito ?
Oui, bonjour. Je suis quand même là, même si je ne suis pas là quand même.
C'est un fantôme, en fait.
Oui, voilà, je suis un fantôme. Déjà, deux choses. Déjà, de une, t'as dit un gros mot.
Quand ?
Et de deux, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous militez pour d'autres choses ?
Oui, je milite pour plein de choses. Je milite, par exemple, contre le racisme. Voilà, ça me paraît vraiment insupportable qu'encore aujourd'hui, si on a un nom qui ne sonne pas français ou si on est noir de peau, on n'est pas traité de la même façon dans notre société. On peut être victime de violences, de discrimination à l'embauche, de discrimination pour avoir un logement. Donc, c'est un des combats pour lesquels je m'engage. Aussi pour nos droits sociaux, par exemple sur le fait de préserver l'école, de continuer à donner un budget important à l'école ou bien à la justice. Ça me paraît trop grave aussi qu'on donne de moins en moins de budget à la sécurité sociale aussi. Donc je m'engage sur vraiment beaucoup de mouvements sociaux.
Je suis totalement d'accord avec vous. est-ce que quelqu'un a une dernière question ou plusieurs questions, je ne sais pas.
Est-ce que vous trouvez que le féminisme actuellement reprend de la vigueur ou est plutôt en train de s'essouffler ?
Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est dans la quatrième vague du féminisme. C'est un peu comme ça qu'on le définit si on regarde un déroulement historique. Et aujourd'hui, le féminisme... je connais pour les pays occidentaux, je ne connais pas pour le reste du monde... Et il y a un vrai regain avec beaucoup de personnalités qui en parlent, des journalistes, des chercheuses, des chercheurs. Et c'est notamment grâce au mouvement MeToo qui a eu lieu à partir de 2018, où il y a eu un grand mouvement de dénonciation des violences sexistes et sexuelles, notamment contre Harvey Weinstein, par exemple, aux États-Unis, qui a été accusé par des dizaines de femmes de harcèlement sexuel et de violences sexuelles et de viols. Et en fait, ça a permis de mettre sur la place publique, de parler. Disons que les hommes ont enfin entendu qu'il y avait un problème de violence généralisée dans la société. On appelle ça des violences systémiques. Ce n'est pas l'exception, c'est la règle. Et donc, ça a permis de mettre sur la place publique qu'il y avait encore beaucoup de violences sexistes et sexuelles. Le fait d'en parler déjà, comme aujourd'hui, c'est vraiment un moyen de commencer à combattre. Et après, il faut que les lois changent et que la justice agisse aussi.
Oui, vas-y, question. J'attendais que ce soit la présidente qui me donne la parole.
Pardon, désolé, je regardais pas.
Un auditeur de type grand qui nous demande la question: qu'est-ce que vous pensez de l'écriture inclusive ?
Moi, je trouve ça très intéressant. Je soutiens beaucoup l'écriture inclusive, et même pas que l'écriture, le langage de manière générale. Notre langage, par exemple, quand on dit... par exemple, en français, dans le français actuel, là, par exemple, il y a autant de femmes et filles que de garçons et hommes, et on devrait dire « le masculin l'emporte », donc on dit « on est tous là ». Mais en fait, le problème, c'est que le langage... C'est la pensée, c'est la façon dont on pense notre vie. Et que, en fait, ce qu'on constate, c'est que ça a tendance à invisibiliser les femmes parce qu'on ne les dit pas dans le langage, et à survaloriser les hommes en considérant que le masculin l'emporte. Et en fait, ce n'est pas le masculin l'emporte simplement dans le langage, mais c'est aussi dans, finalement, la plupart des structures de la société où ils continuent à avoir l'essentiel des places... Il n'y a encore que 35% de femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, c'est pour ça que ça me paraît très intéressant, l'écriture inclusive, parce que ça permet, d'une part, de visibiliser les femmes, et d'autre part, il y a aussi l'idée de sortir de la binarité. Par exemple, on peut dire « on est tous là », donc tous les garçons, les hommes, toutes les filles, les femmes, mais tous, ça peut aussi inclure les personnes transgenres qui ne se reconnaissent ni dans le tous, ni dans le toutes. Voilà.
Alors, moi, vous n'avez pas peur, ça complique un peu trop les relations, justement, ça. Je comprends ce que vous voulez dire, mais par exemple, si je dis tous, moi, je sais tous, il y a Anouk, il y a vous. Dans ma tête, vous êtes là. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. Et le fait de dire tous, toutes, de rajouter des points, vous n'avez pas peur, ça complique un peu la discussion.
Ben, si par compliquer la conversation, vous voulez dire... le problème, c'est que ce que vous voulez dire, c'est que vous préférez garder le statu quo, en fait.
Voilà. Ouais, ouais.
Voilà. Et le problème, c'est que ce que je dis, c'est que ça invisibilise toute une partie de la population et que ça bénéficie seulement à une partie de la population qui est les hommes cis, hétéros. Et donc, c'est injuste. Et en réalité, ce sont des habitudes à prendre... Le dictionnaire est mis à jour chaque année. Il y a des nouveaux mots, il y a des nouveaux termes qui apparaissent. Et en fait, c'est juste une pratique à avoir pour changer notre façon de parler. Voilà.
Moi, j'aurais pensé que le neutre, c'était mieux. Par exemple, si je dis « il n'y a que des personnes ici », »,« personne », c'est un mot qui est féminin. Et on comprend qu'il y a aussi des hommes. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, pour moi, l'écriture intuitive, c'est trop compliqué. Je pense que ça ne restera pas, parce que c'est trop compliqué. Même si votre combat est noble, attention.
Je suis désolé, mais là, je vous perds. Je ne sais pas du tout ce que c'est l'écriture inclusive. Ah. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec le féminin universel qui a été inventé par une écrivaine, c'est ça ? Je ne sais pas.
Alors, l'écriture inclusive, c'est par exemple de dire... donc, on parle de l'écriture, là. Donc, c'est d'écrire, au lieu de dire « tous les gens présents », on va dire tous, voilà, tous.tes, tous, et ensuite on va mettre par exemple les invités et.e.s. Voilà, ça c'est l'écriture inclusive. Et en réalité, c'est une habitude qu'on peut prendre assez vite, et puis même qu'après, peut-être que nos téléphones, et il va y avoir des correcteurs automatiques qui permettront d'avoir ça plus facilement, qui fera qu'on n'aura pas besoin de s'embêter, voilà. Et la féminine universelle dont tu parles, c'est une personne qui, elle, a choisi carrément de féminiser tous les mots pour voir ce que ça vous ferait aux hommes d'être que tous les termes qui vous concernent soient systématiquement féminisés, voire que vous soyez, ben voilà, le féminin l'emporte, que les termes sous lesquels vous êtes recoupés soient féminins. Et donc, c'est un autre... C'est une autre tentative pour montrer que notre langue peut changer et que le fonctionnement actuel est un peu injuste.
Voilà. Donc c'est remplacer une injustice par une autre, quoi. Un peu. Ouais. Alors que le mieux, ça serait de mettre du neutre,
oui,
comme les Anglais.
Alors il y avait quelque chose d'intéressant dans ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait de dire les personnes et les gens, par exemple. C'est des termes qui sont assez neutres et qui ne sont ni masculins ni féminins. Donc en effet... C'est un bon moyen c'est une façon utile de représenter tout le monde, en fait.
Excusez-moi, je vous coupe, mais il est déjà 48.
vite. On devrait se dépêcher de faire autre chose parce que sinon on n'aura pas le temps de tout faire. Nathan, t'as une question ou une question d'un auditeur ?
Oui, nous avons une question qui n'est pas du tout en rapport avec le sujet qu'on a en ce moment, mais c'est une question de Adrien qui nous demande quels sont nos futurs projets, initiatives pour défendre les causes durant cette année scolaire.
Quelles causes ?
Les causes qu'on va faire, quelles causes on va défendre, tout ça, durant cette année
Mais déjà, je pense qu'en parler à la radio, c'est déjà prouver qu'on est... Enfin, pour... Là, par exemple, on parle du féminisme, donc ça peut sensibiliser les gens ou les jeunes ou comme ça. Donc on fait déjà une action en faisant ça, en fait. Que ce soit même, on avait fait une émission sur les LGBT, pareil, ça sensibilise. Donc, merci beaucoup, Pauline, pour toutes vos réponses, etc. On va tout de suite passer à... Alors, attendez, j'ai plus la musique, le nœud de la musique.
Tu veux que je t'aide ?
Ouais, vas-y.
C'est Spring Gang.
De
Sparring Gang.
De Spring Gang, et la musique se nomme Until It's Over.
Empty. Ok, bon,
lance.
Ok.
Lance. La chanson finie, on va passer à l'avis d'Anouk sur les inégalités hommes et femmes à son âge. Donc, redonne-nous ton âge, Anouk.
10 ans.
Donc, on te laisse la parole.
J'ai 10 ans et je vais vous dire ce que je trouve injuste sur l'inégalité des êtres humains. Donc, une fois, on allait faire un cours de sport avec ma classe. Et les garçons courent plus vite que bah, les filles, naturellement. Et les garçons nous ont doulés. Ils ont crié aux filles « losers ». C'est pas très sympa, quoi. Et une fois, une connaissance m'a dit qu'elle avait dit qu'elle n'aimait pas des garçons. Et un gars a dit que c'était sexiste. Et il y a un garçon qui a été traité de menteur et de tricheur en CP. Et depuis, je suis en CM2, il ne joue qu'avec les filles et les autres garçons le traitent de fille. C'est un garçon, quoi. Et juste parce qu'il joue avec des filles, on le traite de garçon.
Et c'est une...
Non, de filles, ouais.
C'est une insulte, ça?
Mais
pas forcément, je pense pas, mais genre pour leur âge, c'est censé être une insulte.
Oui.
Si je te traite de garçon, c'est une insulte?
Enfin... C'est une... je suis une fille, tu vois, c'est je suis pas un garçon, mais enfin, ça veut pas dire que ça veut pas dire que je mets pas de pantalon et tout ça, c'est juste que bah, je suis une fille, quoi.
Et aussi ce que tu as dit par rapport à ce que les garçons courent plus vite que les filles, pas forcément, ça dépend non. De la morphologie,
oui,
etc.
Voilà, la plupart du temps, voilà. Et aussi, bon, j'ai une connaissance qui a peur qu'on la traite de loser et donc elle se pousse à faire plus qu'elle en peut plutôt en sport pour que les garçons se moquent pas d'elle. Et on sait pas. Et à l'école, on n'apprend pas l'écriture inclusive, on le met toujours au masculin. Un garçon a dit à mon amie qu'elle a, vous avez compris, et avec quelqu'un, et il a dit à tout le monde alors qu'elle avait rien fait. Donc forcément, elle s'est trouvée un peu coincée parce que elle pouvait pas dire au prof ce qui s'était passé. Donc c'était pas juste pour elle. Et donc en gros, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que les garçons sont bip.
On se demande bien ce que tu voulais dire. Pauline,
il y a eu un bip là, j'ai pas compris.
Pauline, t'en penses quoi de ce qu'elle a dit?
Ben, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, ce qui est valorisé dans notre société, c'est la virilité. À partir du moment où on dit qu'un garçon naît et que on a vu qu'il avait un pénis et des testicules, et ben on décide qu'on va l'éduquer comme un garçon. Et c'est-à-dire qu'on va lui faire faire des activités viriles. Donc, il faut qu'il aime le sport, il faut qu'il ait envie de jouer avec des action man, des camions, des tracteurs. Et le sport, typiquement, c'est une activité qu'on va vouloir qu'il fasse. Alors attention, pas du sport, pas de la danse, mais on veut qu'il fasse une activité où il va courir vite, où il va montrer ses muscles. Voilà, c'est ça, être viril. En plus, on considère aussi, il y a des anthropologues qui le disent, qu'on nourrit plus les garçons depuis des millénaires, notamment en leur donnant plus, les plus gros morceaux de viande. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils seraient généralement plus grands que les femmes et qu'ils auraient plus de muscles. Et donc, du coup, quand les garçons, ils te disent qu'ils se moquent des filles parce qu'eux, ils courent plus vite, mais en fait, c'est pas juste parce qu'eux, ils sont trop forts. C'est aussi parce que depuis très longtemps, on les nourrit plus, donc ils ont plus développé leurs muscles. Et en plus, on les incite très jeunes à faire des activités où ils vont devoir courir vite, où ils vont être à l'extérieur, etc. Et c'est très injuste et violent de leur part de se moquer. Et ce qui serait intéressant, c'est si on faisait des activités considérées comme féminines, je sais pas, des choses de précision, des choses où il faut rester à l'intérieur, parce que c'est on forme les filles, on socialise les filles à faire ce genre d'activité. Et ben, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ils se débrouilleraient en fait dans ce genre d'activité, et s'ils feraient aussi bien. Et est-ce que les filles dans ces moments-là ressentiraient le besoin de se moquer d'eux forcément pour leur dire qu'ils sont nuls?
Oh, sûrement, oui.
Ben, le problème, c'est que globalement, la violence ne s'exerce pas de la même façon. La violence s'exerce plutôt des garçons sur les filles. D'ailleurs, je l'ai vu dans les statistiques au collège. 80% des personnes qui sont sanctionnées pour les atteintes aux biens et aux personnes, c'est les garçons. Voilà. C'est eux qui se prennent 80% des sanctions. Donc, il y a un problème de violence dans la façon dont on éduque nos garçons.
Merci beaucoup. Donc, on va passer à l'évolution des droits des femmes depuis 1991. Alors, donc, de la première loi 91, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est publiée. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit.
1836, l'ordonnance du 23 juin organise l'enseignement primaire pour les filles. 1861, Julie Dobby est la première femme autorisée à se présenter au baccalauréat. 1900, le barreau est ouvert aux femmes. Jeanne Chauvin, je ne sais pas si je le prononce bien, devient la première avocate. 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire. 1909, le congé de maternité, 8 semaines, est créé sans traitement. 1938, les femmes peuvent s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari. 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et l'éligibilité par ordonnance du général de Gaulle. 1947, Germaine Poisseau-Chappuis est la première femme nommée ministre de la Santé publique et de la Population. 1966, les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. 1967, la loi autorise la contraception. 1970, la loi relative à l'autorité parentale conjointe supprime la notion de chef de famille du Code civil. 1972, l'école polytechnique devient mixte, c'est une femme qui est major de promotion. 1972 encore, le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour les travaux de valeur égale est reconnu. 1974, création du secrétariat d'État à la condition féminine, Françoise Giroud. 1975, ouverture du premier lieu d'accueil pour femmes battues à Clichy. 1975, l'obligation de mixité dans tous les établissements publics d'enseignement est créée. 75, la loi autorise l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. 83, la loi établit l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 91, Edith Cresson est la première femme nommée Premier ministre. 93, la loi du 8 janvier affirme le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants, quelle que soit la situation des parents, mariés, concubins, divorcés, séparés, etc. 2000, la loi autorise la délivrance sans ordonnance des contraceptifs d'urgence, donc la pilule du lendemain. 2001, une nouvelle loi sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adoptée. 2004, la loi relative au divorce prévoit l'évitation du conjoint violent du domicile conjugal afin de protéger les femmes victimes de violences. 2005, la loi en faveur des petites et moyennes entreprises rend obligatoire le choix d'un statut pour le conjoint collaborateur. 2006, la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes vise la suppression des écarts de rémunération. 2006 toujours, la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs établit une égalité quant à l'âge légal du mariage, 18 ans pour les femmes et les hommes. Et enfin, en 2013 seulement, les femmes ont eu le droit de porter un pantalon. Voilà.
Oui, parce que ça, c'était une loi de Napoléon, comme quoi les femmes n'avaient pas le droit de porter la culotte, qui était très bien
2800.
D'ailleurs, et qui a été abrogée.
Ça, ouais, en 2013 seulement, hein, c'est... Pff.
Je la trouvais très bien, mais bon, voilà.
Et ben voilà,
et ben
on va tout de suite
test.
Passer au blind test, effectivement. Voilà. Alors, merci de m'avoir coupé, Ivan.
Et dire au revoir à Thomas aussi.
Oui, mais je suis plus informé que toi.
Salut Thomas.
À la semaine prochaine, alors.
À la semaine prochaine.
Bye bye.
Alors on pourrait faire un blind test, comme il y a autant de garçons que de filles, on va faire les garçons contre les filles, d'accord?
Exactement.
Hein?
Ok.
Allez, go.
Girl power.
Alors les filles, est-ce que vous êtes là?
Non.
Est-ce qu'on peut...
Ouais.
Allez-y, pas tout en même temps.
On
est
là, on est là.
On est présentes.
Les mecs, est-ce que vous êtes là?
Ouais.
Ah. Attendez.
Est-ce que Nathan...
Attendez, nous on est en force, on a une militante avec nous. Hein.
Ouais, mais elle compte
alors, pour
deux
commencer...
parce que moi je dois partir.
Oh non, Anouk.
Oh non, attends, 5 minutes.
Thierry, j'ai une question.
Elle peut pas, il y a la danse.
Bon, ben, il manque une fille déjà.
Une fille,
c'est pas grave, allez.
Bon,
moi, je compte pour deux, Pauline compte pour deux, Ursula compte pour deux. On est en.
Non. Thierry,
alors,
Nathan,
personne
compte
pour
deux.
Salut, Anouk.
La première, c'est un concours de vitesse, donc c'est le plus rapide. Hein. Alors, Evan, peux-tu me passer le 1, s'il te plaît?
Le 1, tu es sûr?
Le 1, oui.
Clara Luciani, la grenade.
Bravo.
Bravo.
Yeah. 1-0 pour les femmes. Ok, on la laisse tourner un peu ou on change?
On change.
Peux-tu me passer la 7?
S'il te plaît.
S'il te plaît. Des animaux de
Angèle.
Balance ton quoi.
Bon, les mecs, 2-0 pour les filles.
Ça, trop fort.
Et attendez, je précise que moi, je peux rien dire parce que j'ai le.
Ah, moi, c'est pareil. Mais moi, c'est pareil, je peux rien dire.
Bah, il y a Étienne, Philippe et
Étienne joue.
Donc, en fait, tu es tout seul.
Bon, Étienne va les remplacer. Peux-tu me passer la 3 ?
C'est Michel Berger, ça, et France Gall.
C'est France Gall, ouais.
Ouais, mais le titre.
Résiste.
Le titre.
Résiste.
Alors, pourquoi c'est une chanson féministe, d'ailleurs ?
Oh, c'est peut-être... une chanson plutôt révolutionnaire, je dirais. Ou enfin, je sais pas, plus...
Ouais, parce qu'il demande aux femmes de résister, justement, c'est ce que vous disiez un peu.
Bah, dans la chanson, elle dit « résiste, prouve que tu existes ». Donc, c'est vrai que dans l'éducation des filles, on nous incite à être discrètes, à pas parler fort, à pas intervenir sur la place publique. Et là, elle dit « résiste, prouve que tu existes ». Donc, en gros, ça suffit de rester dans l'ombre, montre-nous.
Voilà. Peux-tu me passer la 5, maintenant ? Je crois qu'elle va être plus compliquée, celle-là.
Ah oui.
Bon, 3-0 pour les filles.
Remarque, je la connais, celle-là.
Bah ouais, c'est encore chill. Tu ne vois pas mon art. Résume ma musique à mon sexe. Il y a trop de matchs.
Alors,
c'est Soumeya ?
C'est une jeune rappeuse française.
Soumeya.
Ah non, je crois que je vais vous la dire. Non,
Soumeya, elle
s'appelle.
Attends,
on veut la suite.
Soeur, lève-toi et ne reste pas
par contre, c'est pas le nom. Mais c'est Soumeya, la chanteuse, j'en suis sûre.
Mon amertume. Combien de larmes, ma rage écume. Combien
c'est parce que j'ai vu sur internet, hein, c'est pas Soumeya, c'est un seul mot, ça commence par un C.
Je sais pas du tout.
Alors, elle s'appelle Sheila.
Ah, Sheila, oui, bien sûr, je crois qu'elle... Et je croyais que c'était Soumeya pour le coup.
Et ça s'appelle Balance ton porc, comme ça.
Ah,
okay.
Ah
super,
oui.
Je tiens à préciser, c'est pas du tout le genre de musique.
Est-ce que tu peux, on chante la 6, au moins?
C'est quoi, c'est Rita Mitsuko?
Non.
Non, c'est pas français.
Ah! Alors, yeah, celle-là, si vous la reconnaissez pas, c'est pas une française.
Il n'y a pas de parole? Attends.
Si, si, si. Alors, c'est une féministe, rien que son nom déjà, c'est le féminisme. Il y a un homme qui a répondu.
Sans écouter en plus. Hein.
Madonna. C'est Madonna, c'est Madonna, exactement.
On peut applaudir.
Et ah, c'est Material Girl. Vous savez, Material, c'est une fille matérielle qui vit dans un monde matériel. Ouais. Est-ce que vous en voulez une autre ou on en fait une dernière?
Une dernière, allez, une dernière.
Alors, c'est pour rire. Tu me mets la 8, s'il te plaît. Pour moi, c'est le symbole du féminisme. Mais c'est pour rire.
J'ai peur.
Bon, le titre, ça doit être Wonder Woman.
Oui, c'est ça. Comment? Ben voilà.
Mais je sais pas de qui.
Elle s'appelle Ruth Johnson Williams. Elle est complètement inconnue. Oh,
c'est vieux ça.
Je connais pas.
C'est voilà, générique de la série.
Ouais, exactement.
Ouais, ça doit être ça.
Ouais, se transforme en tournant. C'est ouais, magnifique.
Ça, c'est magnifique.
Voilà, et sinon ben... il y en a peut-être une dernière s'ils veulent ou pas.
Ouais, mais laquelle?
Ben, une qu'on n'a pas passée.
Je crois que celle-là, on l'a pas passée.
Je n'ai besoin de personne. Ah, ça s'adresse plus aux anciens.
Sanson ou... Véronique Sanson. Véronique Sanson.
Ouais, c'est ça, mais...
Besoin de personne.
Ouais, 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 c'est ça.
Bon, mais ça m'ennuie de l'admettre.
On a gagné.
Voilà, les filles ont gagné. Nathan, admettre comme quoi c'est une exception. Bravo. Il peut arriver que les filles gagnent.
Ça, c'est... Bravo Nathan. Pourquoi Nathan
bravo mesdames.
Ne célèbre pas.
Eh ben, merci, on va close cette émission. Clore, c'est pas grave, on s'en fiche. Cette émission.
Je crois qu'on a oublié de préciser que Pauline, tu te présentes comme une activiste, c'est ça?
Oui, comme une militante féministe.
Une militante féministe, voilà. C'est... Dans une association dans...
Actuellement non, mais j'ai participé à l'organisation du Festival des Corps et des Cœurs avec l'association Encore en juillet. Et sinon, je suis militante à titre personnel, voilà.
Ben ok, voilà, c'était tout pour préciser.
Merci, merci Thierry de m'avoir coupé.
De rien.
Nous vous souhaitons tous une bonne fin d'après-midi, soirée, tout ce que vous voulez. Et à la semaine prochaine.
Aux garçons et aux filles. Hein.
Ouais. Bien sûr.
Au revoir.
Merci de l'invitation.
Au revoir les tweetos.
Avec plaisir.
l'émission découverte présentée par Éléonore.
Un programme proposé par Radio Impro.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Éléonore et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la première émission découverte de l'année. À l'heure où j'écris cette chronique, je suis aux États-Unis et dans quelques jours, je pars faire du camping dans le parc national de Yellowstone. Le thème de l'émission d'aujourd'hui sera donc le parc national de Yellowstone, son histoire et son patrimoine. Yellowstone, c'est un parc national américain qui est un site protégé par l'UNESCO à cheval sur trois états, donc on a le Wyoming, l'Idaho et le Montana. Et il faut savoir que Monsieur Grant crée le parc en fait en 1872, un site unique et qui deviendra le premier parc national du monde. Donc en fait, il s'étend sur quasiment 9000 km², soit plus que la taille de la Corse. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité du truc et ce qui fait de lui en fait le deuxième plus grand parc des États-Unis. En fait, son histoire elle est quand même singulière puisque ce parc a été habité par des Amérindiens, y trouvant de quoi vivre paisiblement. Bon, il est vrai que ce paysage est clairement idyllique, il y a des sources d'eau chaude, des rivières, des lacs et des animaux à volonté. Yellowstone n'est pas seulement célèbre pour cette distinction, mais aussi pour ses phénomènes géothermiques. Parce qu'en fait, le parc contient 2/3 des geysers de la planète et de nombreuses sources d'eau chaude. Et le geyser le plus emblématique, nul autre que Old Faithful, dont les éruptions restent très prévisibles, réglées comme une horloge. Ce geyser va vous en mettre plein les yeux. Le patrimoine du parc est également marqué par la présence d'animaux sauvages, comme par exemple on a vu des ours, des coyotes, des bisons et bien d'autres. Et afin de bien profiter de ce patrimoine hors du commun, mesdames et messieurs, je vous invite à ne pas rester trop près des animaux pour leur sécurité et surtout pour la vôtre, parce que vous savez pas ce qu'un bison peut vous faire, et ça fait mal.
On va passer maintenant à une interlude musicale. Je ne suis pas Éléonore, je suis Keisogi, puisqu'on l'a enregistré il y a quelques temps, mais maintenant Éléonore poursuit ses études à Paris, et comme moi, mais je pars un petit peu plus tard. Du coup, voici Cotton Eye Joe de Rednecks, qui va très bien du coup avec le thème de l'émission. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been for Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? We'll be right back.
Donc on reprend. Le parc national de Yellowstone fait partie d'un écosystème étendu sur près de 80 000 km², qui comprend également d'autres réserves naturelles telles que le parc national de Grand Teton et des forêts nationales. Cet écosystème constitue la plus grande étendue vierge d'un seul tenant aux États-Unis, si on compte pas l'Alaska. Il est généralement considéré comme le plus vaste milieu encore intact de la zone tempérée nord, donc vous vous rendez compte du truc, quoi. Grâce au programme de réintroduction du loup mis en place dans les années 90, toutes les espèces qui vivaient dans la région avant l'arrivée des Européens en Amérique sont encore présentes, donc c'est quand même un écosystème incroyable. Je peux pas vous raconter l'histoire entière de ce fabuleux parc national, mais je vous conseille vivement d'y aller, hein.